Seigneur, nous venons nous exprimer pour te réclamer le bonheur suprême, Seigneur, lié à tes promesses. Nous voulons entrer dans ta sainte présence. Réponds-nous, Seigneur. Répands ton amour en ce lieu, ton amour qui dépasse la force du péché, la force du mal, ton amour qui t'a amené à la croix afin que tu triomphes des forces des ténèbres. Que cet amour, Seigneur, nous enlève le doute et nous donne une paix totale en toi. Merci de nous conduire dans ta parole et que tout soit fait pour ta gloire. Au nom de Jésus, amen. Nous allons lire dans Jean 14, 12 à 14. Jean 14, 12 à 14. Voilà, le Seigneur promet que nous allons faire les plus grandes œuvres. Voilà, et nous voulons examiner qu'est-ce que ça veut dire tout ça dans Jean 14, 12 à 14. Quelles sont les conséquences de ce passage spécial. Nous lisons Jean 14, 12 à 14.
En vérité, je vous le dis, celui qui croit en moi fera aussi les œuvres que je fais, et il en fera des plus grandes, parce que je m'en vais au Père. Et tout ce que vous demanderez en mon nom, je le ferai, afin que le Père soit glorifié dans le Fils. Si vous demandez quelque chose en mon nom, je le ferai.
Amen. Voilà, donc le Seigneur dit, celui qui croit en lui fera les mêmes œuvres que lui, et il en fera même de plus grandes, puisque il est maintenant auprès du Père. C'est-à-dire qu'il peut tout obtenir, ayant satisfait le cœur du Père, il peut tout obtenir. Donc ayant, là quand il part comme ça, je m'en vais auprès du Père, ça veut dire qu'après que j'ai réussi mon œuvre terrestre, c'est-à-dire la crucifixion, désormais tout sera possible. Donc je serai auprès du Père dans une position de force en quelque sorte. Alors que quand il est physiquement là sur terre, c'est son Père, il écoute, mais en ce qui nous concerne, il n'est pas encore en position de force. Il n'a pas encore payé le prix à la croix pour nos péchés. Il dit, quand j'aurai payé le prix à la croix pour vos péchés, je serai en position de force. Je pourrai dire au Père de faire tout ce que vous demanderez. Il dit, en vérité, je vous le dis, celui qui croit en moi, il fera les mêmes œuvres que moi. Il en fera de plus grandes, parce que là, je serai même auprès du Père pour dire au Père, oui, ils y ont en quelque sorte droit, même si ce n'est pas un droit, mais ils méritent en quelque sorte cela à cause de mon œuvre à la croix. Tu peux leur accorder cela. Et quand il était sur terre, on peut dire qu'il faisait une sorte de forcing auprès du Père pour nous obtenir les choses. Mais là, c'est différent. Là, après la croix, il a payé le prix. Donc son amour, l'amour de Dieu, peut se manifester pleinement. Voilà, notre souci aujourd'hui que nous voulons partager, c'est pourquoi ne pas saisir tout cela et en profiter. Pourquoi ne pas saisir tout cela et entrer dans une gloire extraordinaire. Quand lui-même dit, celui qui croit en moi fera les mêmes œuvres que moi. Mais il ne parle pas de pasteur là, hein. Il ne parle pas des gens qui ont des titres. Hein. Il parle de tous ceux qui croiront en lui. Hein. Ce n'est pas le seul passage. Vous vous souvenez, dans Marc 16, il est dit au verset 17, « Voici les miracles qui accompagneront ceux qui auront cru. » Ce sont des miracles pour tous, ce n'est pas pour une catégorie de personnes. Voilà, mais nous avons le choix d'y adhérer, d'accepter cela ou pas. C'est un choix. Et aujourd'hui, nous voulons nous donner envie d'accepter cela, envie de réclamer cela. Voilà, parce que accepter, c'est une chose, réclamer, c'en est une autre. Donc, il ne faut pas juste croire, juste accepter, mais il faut réclamer ça auprès de Dieu. Il faut avoir envie, manifester cette envie-là. Et nous allons commencer par notre première question, mais il est écrit dans un autre passage, nous n'allons pas tout lire, le disciple n'est pas plus grand que le maître, mais tout disciple accompli est comme le maître. Voilà, bon, comment se fait-il que lui dit que le disciple n'est pas plus grand que le maître, mais il autorise à ce que le disciple fasse des choses plus grandes? Voilà, c'est ça notre question d'aujourd'hui. Le disciple fera des choses plus grandes. Comment, alors que le disciple est inférieur au maître normalement, et s'il peut faire les choses, il en fera au niveau de ce que le maître a fait lui-même. Alors, notre première réponse se trouve dans Jean 15, 5, que nous n'allons pas lire. C'est écrit « Sans moi, vous ne pouvez rien faire ». Nous retrouvons cette réponse dans le texte que nous venons de lire ensemble. Il dit au verset, qu'est-ce qu'il dit au verset 14 ? « Tout ce que vous demanderez, je le ferai. Tout ce que vous demanderez en mon nom, je le ferai. » Première raison, c'est qu'en fait, tout ce que fait le disciple, c'est le maître qui le fait. Donc ce n'est pas, quand il dit que les disciples feront de plus grandes choses, ça ne veut pas dire qu'ils dépasseront le maître. Puisque même quand ils feront de plus grandes choses, c'est le maître qui le fera en eux. Donc c'est ça la première raison, c'est qu'en réalité, le disciple ne peut rien sans le maître, Jean 15, 5. Vous ne pouvez rien sans moi, c'est dit clairement. Et le frère Paul dit, qu'as-tu que tu n'aies reçu, dans 2 Corinthiens 4, 7, qu'as-tu que tu n'aies reçu, tout ce que tu peux faire, quelqu'un d'autre te l'a donné, Dieu lui-même. Le frère Paul dit aussi ailleurs, je puis tout par celui qui me fortifie. Voilà, donc c'est le Seigneur lui-même qui nous a promis dans Matthieu 28, 18 à 20, allez faire de toutes les nations des disciples, et voici je serai avec vous tous les jours. Donc c'est lui qui continue son action. Avant, il était dans un corps physique ici sur terre faisant les choses. Maintenant, il est dans son esprit, en nous, en train d'accomplir les choses. C'est quand même lui qui continue à le faire. Donc, ça ne contredit pas le verset qui dit « Le disciple est plus grand que le maître ». Non, et le maître est plus grand que le disciple. Ça ne contredit pas cela, puisque c'est toujours le maître qui continue à le faire. Et donc, je dirais malheur à tous ceux qui en tirent gloire personnellement pour se croire quelqu'un, grand pasteur ou je ne sais quoi. Nous ne sommes rien du tout. Sans Jésus, nous ne pouvons rien faire. C'est lui qui continue à agir en nous tous, quels que soient les exploits que nous ferons plus tard. Souvenons-nous de cela, c'est le Seigneur qui les accomplit en nous. Voilà. Mais nous pouvons nous poser une question, la deuxième question, là, on a donné une première réponse à cette permission-là, à ce que les disciples fassent de plus grandes choses. Parce que vous savez, il y a des versets, tu lis, mais tu n'es pas convaincu en 100%, hein, puisque tu te dis quand même que quelqu'un fasse les choses plus que Jésus, c'est une forme de contradiction. Voilà. Et il y a beaucoup de chrétiens qui, au fond d'eux, n'y croient pas vraiment. Même s'ils disent qu'ils croient en toute la Bible, mais il lit le verset, Jésus dit, mais ils en feront de plus grandes. C'est-à-dire, ah, mais quand même, c'est comme s'ils diminuaient un peu le Seigneur. Tu le diminues en rien du tout, parce que c'est lui qui va faire en toi. C'est toujours lui. Notre but aujourd'hui, c'est que nous ayons envie de ces plus grandes choses dont il parle. Vous savez, c'est une souffrance pour un professeur de voir que ses élèves n'ont pas atteint le niveau qu'il attendait d'eux. C'est une souffrance. Il a fait des efforts, il a préparé ses cours, et le jour de l'examen, ce sont les élèves d'une autre école. Hein, vous savez, il y a des examens que tout le monde fait, tout un pays fait, et ce sont les élèves d'une autre école, avec un professeur de moindre qualité, qui ont le meilleur résultat. Ça va faire mal au grand professeur qui lui dépasse tous les autres professeurs, il vous a enseigné, mais vous produisez moins de résultats petits par rapport aux élèves du petit professeur Satan. Vous savez, les élèves de Satan font de grandes œuvres, hein, font de grandes œuvres avec l'intelligence qu'il leur donne, avec la méchanceté qu'il leur donne. Vous voyez, des élèves comme Hitler, il a réussi à mettre le monde entier à feu et à sang. Voilà, il a appliqué les choses que les démons lui disaient. Voilà tout ce que ça a produit. Maintenant, on arrive aux enfants de lumière. Eh ben, le professeur a tout donné, mais ça produit quoi? Ça produit la volonté d'avoir un gros compte bancaire. Ça produit, quand il y a un miracle, un seul miracle, ça devient le témoignage de sa vie. Alors que, non, maman bien-aimée, vous savez, si nous respectons la parole, si nous suivons la parole, nous devrions être incapables de compter les miracles dans nos vies. Mais si tu arrives à les compter, c'est que quelque part tu es à côté. Voilà. Donc il faut que, et moi, donc tout le monde, si on arrive à compter, c'est qu'il y a un problème. Puisque Jésus a fait tant de miracles, il est écrit dans Jean, les livres du monde entier ne pouvaient les contenir. Dieu est infini dans sa gloire. S'il commence à agir, on ne pourrait pas compter ce qu'il fait. Et Jésus dit, mais vous ferez de plus grandes, mais aussi en nombre. Voilà. Et nous ne devons pas être des piètres élèves. Donc notre but aujourd'hui, c'est que chacun de nous entre dans la promesse du Seigneur et comprenne une chose. Donc, entre dans la promesse du Seigneur de faire de plus grandes choses, mais comprenne une chose, Dieu nous aime beaucoup. C'est ça la deuxième réponse. Pourquoi il permet que nous puissions faire de plus grandes choses? C'est la preuve d'un amour immense pour nous. Vous savez, même dans les familles où les gens s'aiment naturellement, même dans ces familles-là, vous allez voir parfois un père être jaloux de son fils. Lui, il avait voulu atteindre un certain niveau. Quand son fils vient, lui n'a pas atteint ce niveau-là. Son fils vient, il atteint ce niveau. On voit le papa qui, normalement, doit avoir un amour facile, naturel, être quand même jaloux de son fils. Ça arrive. Donc, parce que malgré le fait que c'est le Seigneur qui va agir en nous, mais il faut reconnaître quand même que les gens verront notre tête, hein. Les gens verront notre main agir. D'une certaine manière, qu'on le veuille ou pas, notre nom sera glorifié. Hein. Donc pourquoi lui n'est pas jaloux de ça pour dire, mais attends, moi je fais, c'est son nom qu'on cite dans les journaux. Parce que dans les journaux, le païen ne va pas dire, Jésus a fait des choses dans tel endroit. Il va dire, il y a un pasteur qui est venu de la Hollande, il a fait ceci, cela dans un endroit. Donc Jésus pourrait dire, mais attends, c'est le nom de ce monsieur-là qu'on donne. Mais quand on aime quelqu'un, on est prêt à tout lui donner. Même à, voilà, c'est ça là. Il nous aime d'un amour extraordinaire. Nous voyons ça dans les familles. Ce n'est pas tous les grands frères qui acceptent que les petits frères les dépassent. Mais il y a des grands frères qui n'ont aucun problème à cela. Et vous allez voir que c'est le genre de grand frère qui considère son petit frère comme son enfant. Comme son enfant. Mais bon, on a parlé de père, oui, mais il y a père et père. Il y a des gens qui, des parents qui acceptent que l'enfant le dépasse parce qu'il aime beaucoup cet enfant-là. Et bien sûr, dans cet amour-là, on se voit dedans. Donc quand l'enfant fait les choses, on voit quand même son œuvre dans cet enfant-là. Il y a Jésus nous aime tellement qu'il nous a confié son œuvre. Il fait, mais avec nous. Et donc, quand il fait, qu'on le veuille ou pas, en définitive, les gens avisés verront la main du papa dedans, la main du professeur dedans. Ils verront, ils diront, mais ça, c'est vraiment un élève de tel professeur. Voilà. Et ce n'est pas moi qui le dis, hein. Lui-même le dit dans le passage qu'on a lu. Il dit, et verset 13, « Et tout ce que vous demanderez en mon nom, je le ferai afin que le Père soit glorifié dans le Fils. » Donc, qu'est-ce qui se passe? Toi, tu fais, à cause de toi, le nom de Jésus est glorifié. Il y aura toujours des poussières que toi, tu vas recevoir de la part des gens des poussières pour dire que tu es un homme extraordinaire, tu es puissant. Oui, il y aura des gens qui diront ça, mais les vrais, les gens qui connaissent les choses, ils verront la main de Jésus dans l'affaire. ils comprendront, ils glorifieront Jésus. Mais il y aura toujours des humains pour t'encenser, toi. Mais il y a des vrais qui diront, mais Dieu est grand, et Jésus est grand, puisque c'est au nom de Jésus que tu fais tout ça. Et Jésus dit, quand lui, Jésus, en son nom, les choses se font, c'est son Père qui est glorifié. Voilà. Il y a l'amour de Dieu. La deuxième raison, c'est celle-là. L'amour de Dieu pour nous est tellement grand qu'il nous partage sa gloire. Il est écrit dans Isaïe 42, 8, « Je ne donnerai ma gloire à personne. » Mais dans le sens où il n'y aura pas d'égalité, mais dans l'héritage, c'est un héritage. Oui, Dieu nous a fait héritier de sa gloire à lui. C'est ça la réalité. Et il n'est pas dérangé par cela, à cause de son amour. Et je le répète, on peut prendre exemple, dans certaines familles, il y a des parents qui ne sont pas du tout dérangés que leurs enfants les dépassent. Même s'ils sont dans le même sport, dans le même métier, ils ne sont pas dérangés que les enfants les dépassent. Mais dans d'autres, il y a des parents, il y a des frères, des grands frères qui sont dérangés. Et ils se disent, mais c'est moi qui lui ai tout montré. Mais alors, quand il fait tout ça, les gens se souviendront que c'est toi. Les gens chercheront son professeur dans tous les cas. Les gens cherchent toujours. Mais d'où ça lui vient tout ça? Ça finit toujours par la gloire du professeur. Ça finit toujours par la gloire de Dieu. Donc quand on va faire ces choses-là, ça finira toujours par sa gloire. Mais malgré ça, même s'il y a une foule, un certain nombre de personnes qui vont comme nous donner gloire, Dieu n'est pas dérangé par le fait que nous ayons comme une apparence de gloire supérieure. Et parce qu'il sait que, premièrement, c'est faux. Deuxièmement, il aime. Il aime que sa gloire se manifeste à travers nous parce que nous sommes ses enfants. Donc la deuxième raison, c'est que son amour est immense pour nous. Quand on aime beaucoup, on donne sa vie. C'est-à-dire, vous vous souvenez quand le fils perdu est revenu, qu'est-ce que le papa fait? Il lui a mis l'anneau. Vous savez qu'est-ce que ça représente cet anneau? C'est l'anneau d'autorité. Autrefois, les gens, pour signer, ils signaient en mettant, ils avaient des anneaux, des bagues avec un relief qui faisait que quand il appuyait ça sur l'encre et il mettait sur le papier, c'était le cachet de l'époque. Donc quelqu'un pour cacheter, pour signer, il mettait son doigt dans une encre et appuyait maintenant sur la feuille, on voyait le cachet de la personne. C'est un anneau d'autorité. Donc on confie à ce fils l'anneau d'autorité. C'est pourquoi son frère aîné est en colère. Mais comment celui qui a gaspillé tous tes biens, celui qui a été méchant, il revient, tu lui confies l'autorité. Mais c'est l'amour de Dieu. C'est l'amour de Dieu. Et effectivement, ça peut nous déstabiliser en disant, mais comment il peut permettre ça? Oui, il permet parce qu'il nous aime beaucoup. Comme un parent qui aime beaucoup son fils ou sa fille ne sera pas gêné qu'elle le dépasse ni qu'il le dépasse. Il ne sera pas gêné. Un grand frère, une grande sœur qui aime beaucoup sa sœur ou son frère, il ne sera pas du tout gêné de voir l'autre arriver au-dessus de lui malgré le fait que c'est lui qui l'a entraîné. Il l'aime tellement qu'il se voit en lui. Vous savez, l'amour est tellement fort que ça crée une fusion. Quand on aime beaucoup, on se voit dans la personne. Il y a une fusion. Ce qui fait que la gloire de l'autre devient ta gloire. Donc quand les chrétiens vont passer dans une région, manifester la gloire de Dieu, on dit bien la gloire de Dieu, ben, c'est le nom de Dieu qui finalement sera glorifié. Les chrétiens, quand ils vont manifester la gloire de Dieu, mais puisque c'est des disciples de Jésus, on parlera de Jésus. On reconnaîtra que ça vient de Jésus. Et quand ça vient de Jésus, on reconnaîtra que ça vient de Dieu le Père. Le Père, afin que le Père soit glorifié. Donc, deuxième raison, c'est l'amour de Dieu. Dieu nous aime tellement que ça ne le gêne pas. Jésus nous aime tellement que ça ne le gêne pas que nous fassions de plus grandes choses. contrairement aux faux pasteurs d'aujourd'hui. J'ai appris qu'en Hollande, il y a des pasteurs qui priaient pour un autre pour l'établir. Ils ont dit, nous t'établissons pasteur, mais sache quand même que tu ne nous dépasseras pas. Voilà. Vous voyez les escroqueries qu'on vit aujourd'hui dans le milieu chrétien. Donc ils prient pour l'autre pour l'établir dans sa charge et ils disent, mais tu ne nous dépasseras pas. Mais qui vous êtes ? Là, nous lisons le Seigneur dit, ils feront de plus grandes choses. Vous voyez la différence ? C'est l'amour, la différence. Ici, il y a l'amour. Et dans l'amour, il n'y a pas de jalousie. Dans l'amour, il n'y a pas de revendication. Je t'ai fait ceci, je t'ai nourri. Non, celui qui aime considère ça comme naturel. Il ne se vante pas d'avoir aidé, nourri, c'est moi qui t'ai enseigné. Non, celui qui aime, il aime content d'avoir tout donné. C'est ça, bien-aimé. Les revendications ne viennent pas de Dieu. Ce n'est pas un esprit d'amour. Je t'ai aidé, je t'ai donné des cours. Non, je l'ai fait parce que je t'aime. Maintenant, si tu te détournes, tu t'en prendras qu'à toi-même dans la suite. Mais moi, je t'aime. Le but de cet enseignement d'aujourd'hui, c'est les deux-là. Réaliser l'amour de Dieu pour nous et entrer dans les promesses grandes du Seigneur qui dépassent l'imagination. Réaliser cela. C'est très important. Troisième réponse, pourquoi Dieu permet qu'on fasse de plus grandes choses ? Eh bien, tout simplement parce que Dieu est infini. Même si les miracles qui sont dans le Nouveau Testament sont extraordinaires, le bloquer à ça, c'est une honte pour lui. Il ne peut pas être limité. Il est infini dans sa gloire. Il est infini. Donc forcément, dans la suite, se feront encore de plus grandes choses. Nous avons été témoins de la vision d'Ézéchiel. Quand Ézéchiel a la vision du chariot céleste, ben les anges eux-mêmes sont surpris ce jour-là. Quand Ézéchiel se détourne pour aller ailleurs, il entend derrière lui des anges crier « Béni soit la gloire du Dieu vivant ». Donc les anges n'avaient jamais vu la vision comme Ézéchiel aussi avait vu ce jour-là. C'est extraordinaire même pour les anges. Donc Dieu fait toujours des choses encore plus grandes, plus grandes. L'homme ne peut jamais épuiser les manifestations puissantes de Dieu. Regardez, rien que hier, j'ai regardé ce que c'est que le proton aujourd'hui. Nous, quand nous étions petits, on disait l'atome est composé des électrons, hein, les derniers éléments. Électrons, protons, neutrons, c'était là. Mais hier, j'ai vu tout ce qu'il y a maintenant. Ils ont trouvé dans le proton plein de choses, des gluons, des quarks. Je dis, mais. Donc, un proton n'est plus juste un proton, l'élément final, mais il y a plein d'autres choses dedans. Mais c'est sans fin. Donc, le jour où nous aurons encore des microscopes à grande résolution, on verra encore des petits trucs dans les gluons. Vous voyez, Dieu est sans fin dans sa manifestation. Donc, c'est normal que les gens qui viendront en paix fassent de plus grandes choses parce qu'il est infini dans sa gloire. Quatrièmement, c'est le côté combat. Nous voyons ça dans Éphésiens 3:10. Dieu dit que le monde satanique apprendra à travers l'Église sa puissance. Mais si le nombre de miracles est limité, mais Satan connaîtra tous nos miracles et il saura comment les contrer. Mais comme le nombre de miracles est illimité, ça va déstabiliser le monde de ténèbres. Donc nous sommes appelés à vivre de plus grandes choses, c'est logique, puisque c'est comme ça. Satan ne peut pas tout imaginer, puisque c'est infini, le nombre de manifestations de la gloire de Dieu. C'est pourquoi il permet cela. Et le dernier point, c'est Jésus lui-même qui le dit. Il dit, parce que je m'en vais au Père. Vous savez, si ton Père a fait bien les choses, tu vas hériter de quoi? Madame, tu as l'âge de 8 ans. Ton père a déjà commencé une entreprise alors que tu avais l'âge de 5 ans. À l'âge de 8 ans, l'entreprise a évolué. À l'âge de 15 ans, l'entreprise a encore évolué. À l'âge de 30 ans, admettons, nous arrivons à l'âge de 68 ans. Tu as 68 ans ou 62 ans et ton père meurt. Ben, qu'est-ce que tu vas retrouver? Sachant que cette entreprise a toujours continué à évoluer, tu vas retrouver quelque chose de plus grand que tu as connu quand tu avais 20 ans, 21 ans. Mais maintenant, c'est entre tes mains. Donc, Jésus-Christ, il a tout accompli à la croix. C'est logique que nous héritions de choses plus grandes parce que maintenant, il a tout bâti ce qu'il fallait pour la suite. Donc, c'est logique que ce que nous vivions avant qu'il fasse, il aille à la croix, sera inférieur à ce que nous allons vivre après. Parce que quand il était sur terre, il était en train de bâtir notre avenir. Mais maintenant qu'il a fini de bâtir cet avenir, forcément, le passé sera inférieur. C'est logique. Ton père, quand il s'en va, dans l'au-delà, il te laisse une entreprise avant qui avait 20 000 euros de chiffre d'affaires, 1 million, 10 millions, mais quand il s'en va, l'entreprise a des milliards de chiffre d'affaires. Donc c'est logique que toi, quand tu prends possession de l'entreprise, tu n'es pas le même. Parce qu'avant, peut-être, tu étais directeur, tu n'es plus le même. Tu n'es plus un directeur, tu es un PDG. Tu n'es plus un PDG d'une entreprise de millions. Tu es un PDG d'une entreprise de milliards. Donc, ton futur va être plus grand que ton passé, forcément. Donc, c'est ce qui se passe. Il dit, puisque je m'en vais au Père, ça veut dire que j'ai réglé ce que je devais régler. Hein, ça s'appelle la logique du testament. Quand est-ce qu'on prend possession du contenu d'un testament? C'est quand le testateur meurt. Mais quand celui qui a fait le testament, il est mort, toi, tu hérites des choses que tu ne gérais pas avant quand il était vivant. Donc forcément, ta gloire sera encore plus grande. C'est ça la réalité. Il faut que nous soyons au courant de tout ça. Le testateur, il est au ciel maintenant. Nous restons avec tout ce qu'il a construit pour nous afin que nous brillions. Il a construit par son œuvre à la croix. Il a payé par tout ça. Il a tout préparé. C'est pourquoi il dit, vous ferez des plus grandes choses. Parce que je m'en vais au Père. Parce que je suis là-bas maintenant. J'ai tout réglé. J'ai tout arrangé pour que ça soit glorieux. Mais, bien-aimés, nous avons le choix d'y croire pour le vivre. C'est ce que nous voulons présenter aujourd'hui. Nous commençons par lire Éphésiens 1, 15 à 21, où le frère Paul nous dit la même chose. Éphésiens 1, 15 à 21, il nous dit les mêmes choses.
C'est pourquoi moi aussi, ayant entendu parler de votre foi au Seigneur Jésus et de votre amour pour tous les saints, je ne cesse de rendre grâce pour vous. Je fais mention de vous dans mes prières, afin que le Dieu de notre Seigneur Jésus-Christ, le Père de gloire, vous donne un esprit de sagesse et des révélations dans sa connaissance, qu'il illumine les yeux de votre cœur pour que vous sachiez quelle est l'espérance qui s'attache à son appel, quelle est la richesse de la gloire de son héritage qu'il réserve aux saints et quelle est envers nous qui croyons l'infinie grandeur de sa puissance se manifestant avec efficacité par la vertu de sa force. Il a déployé en Christ, en le ressuscitant des morts et en les faisant asseoir à sa droite dans les lieux célestes, au-dessus de toute domination, de toute autorité, de toute puissance, de toute dignité et de tout nom qui peut être nommé, non seulement dans le siècle présent, mais encore dans le siècle à venir.
Voilà. Il est dit que Jésus...
Beaucoup de miracles et des prodiges se faisaient au milieu du peuple par les mains des apôtres. Ils se tenaient tous ensemble au portique de Salomon et aucun des autres n'osait se joindre à eux. Mais le peuple les louait hautement. Le nombre de ceux qui croyaient au Seigneur hommes et femmes, augmentait de plus en plus. De sorte qu'on apportait les malades dans les rues, qu'on les plaçait sur des lits et des couchettes, afin que lorsque Pierre passerait, son ombre au moins en couvre quelques-uns. La multitude accourait aussi des villes voisines à Jérusalem, amenant des malades et des gens tourmentés par des esprits impurs, et tous étaient guéris.
Voilà. Dans ce texte, on nous montre que vu le nombre de malades qui venaient pour être guéris, les gens se sont dit, mais s'il faut que Pierre prie pour toutes ces personnes, ça va prendre du temps. Et physiquement, c'est compliqué. Alors, nous allons nous arranger de sorte que son nombre, touche les gens. Et il nous est dit que toutes les personnes étaient guéries. L'ombre de Pierre, lorsqu'elle touchait quelqu'un, nous savons que c'est qu'une ombre. Hein. Une ombre, c'est rien du tout. Hein. Une ombre, c'est le fait que la lumière n'atteint pas un endroit. Mais pourtant, cette ombre-là, qui est en réalité rien du tout, ben, a quand même été utilisée pour la guérison des personnes. Jésus a dit, ils feront de plus grandes choses parce que je m'en vais au Père. Au fait, c'est... Mais attention, cette ombre n'a pas guéri d'elle-même. Elle a guéri parce que les gens se sont dit, cette ombre-là peut guérir. C'est pas sinon, toutes les ombres des enfants de Dieu guériraient les gens. Non, les gens se sont dit, on ne peut pas approcher tout le monde de Pierre. Mais pourtant, tous ces malheureux-là attendent la guérison. Que faire pour que tout le monde soit quand même satisfait? Ben, on va utiliser même son ombre. Positionnons les gens de sorte que quand Pierre passe, que ceux qui ne peuvent pas toucher physiquement soient touchés par son ombre. C'est comme ça que tout le monde a été guéri. Parce qu'il y a des gens qui ont cru dans le Dieu Tout-Puissant, qui ont cru en l'infinité de sa puissance. Bien-aimé, c'est un choix à faire. Tu crois en quoi? Jusqu'à quel niveau tu crois en Dieu? Il y a des gens qui se sont dit, mais s'il est le Dieu Tout-Puissant, même son ombre peut faire quelque chose. Nous connaissons ce que le centenier romain avait dit à Jésus. Il a dit, moi je donne des ordres à mes soldats, ils obéissent. Toi aussi tu peux donner un ordre aux microbes, ils vont obéir parce que tu es le Dieu Tout-Puissant. Tu peux donner un ordre à toi. Les gens vont obéir. C'est ça la réalité. Au fait, tout est lié à ce que nous voulons. Tout est lié à ce que nous croyons. Il te sera fait selon ta foi. Si tu crois en cette puissance de Dieu, ta vie sera transformée. La gloire de Dieu va se manifester. C'est ça notre partage. Des gens ont décidé que puisque Dieu était tout puissant, l'ombre de Pierre pouvait guérir. Et l'ombre a guéri. Nous passons au frère Paul, acte 19, 8 à 12. Vous savez, mais il serait même dur de parler de Pierre là, parce qu'en réalité, Pierre n'a pas su tout ça, il n'a pas décidé de tout cela. C'est vraiment des gens qui ont cru en Jésus, plutôt. C'est eux qui ont décidé que l'ombre pouvait les guérir. Comme la femme qui souffrait de perte de sang, c'est elle qui a décidé que le vêtement de Jésus pouvait la guérir. C'est la foi des humains dans ce que Dieu est qui fait la différence. C'est ce que nous voulons communiquer aujourd'hui, cette foi-là, pour les étapes à venir. Nous continuons, 8 à 12.
Ensuite, Paul entra dans la synagogue.
Ensuite, Paul entra dans la synagogue où il parla librement. Pendant 3 mois, il discourut sur les choses qui concernent le royaume de Dieu, s'efforçant de persuader ceux qui l'écoutaient. Mais comme quelques-uns restés endurcis et incrédules, décriant devant la multitude la voix du Seigneur, il se retira d'eux, sépara les disciples et enseigna chaque jour dans l'école d'un nommé Tyrannus. Cela dura 2 ans, de sorte que tous ceux qui habitaient l'Asie, juifs et grecs, entendirent la parole du Seigneur. Et Dieu faisait des miracles extraordinaires par les mains de Paul, au point qu'on appliquait sur les malades des linges ou des mouchoirs qui avaient touché son corps, et les maladies les quittaient, et les esprits malins sortaient.
Amen. Voilà. Les maladies les quittaient et les esprits malins sortaient. Est-ce que c'est Paul qui a dit « faites ça » ? Non, il y a des gens qui se sont dit « Dieu est là ». Puisque Dieu est là et que techniquement, Paul ne peut pas imposer les mains à tous. Ben, techniquement, Paul ne peut pas être partout dans toutes les maisons. Ben, on sait qu'il était ici, il a passé la nuit ici. Ils ont pris le drap de Paul, on met sur quelqu'un qui est venu en retard. Paul était déjà parti. La personne était guérie. Ils ont pris le mouchoir de Paul. Mais il avait touché ce mouchoir-là. Il y a quelqu'un qui était venu en retard. On met sur la personne. Il est libéré de mauvais esprits. C'est la gloire de Dieu. Ils feront de plus grandes choses. Parce que je m'en vais au Père. C'est la décision du Seigneur. C'est ce que nous voulons partager aujourd'hui. Dieu veut cela pour nous. C'est notre héritage. Le frère l'a dit dans Éphésiens 1. C'est notre héritage. L'infinie grandeur de sa puissance, c'est notre héritage, bien-aimé. Mais il faut accepter ça et décider de vivre cela. Sortir du christianisme matérialiste, où tout ce qu'on cherche, c'est que Dieu nous aide à avoir la belle maison, les bons enfants, le bon mariage. Et c'est pas ça le véritable christianisme. Le véritable christianisme, c'est vivre la gloire de Dieu que l'homme ne peut même pas imaginer. Qui aurait pu imaginer que les vêtements de Paul guérissent? C'est l'esprit, vous savez. Ne vous en faites pas. Moi, ce que je prêche, c'est pas pour que vous vous inventiez des projets. L'Esprit Saint va vous les communiquer. C'est pour que vous les acceptiez. Les idées du Saint-Esprit en vous. Acceptez-les. Comme ces gens-là, ne pensez pas que c'est eux qui ont inventé, qui puissent mettre les vêtements. L'Esprit leur a parlé. Et eux, ils ont accepté ça. L'Esprit a parlé à la femme qui a touché le vêtement de Jésus. Touche seulement son vêtement. Elle a accepté cette idée. L'Esprit nous donnera des idées concernant la gloire de Dieu. Nous devons les accepter et les revendiquer, même si on ne verra pas l'Esprit en train de dire voilà l'idée que je te donne. Non, mais comprendre que l'idée que tu reçois correspond aux promesses du Seigneur. Il a dit qu'ils feront de plus grandes choses. Il a dit que sa puissance est infinie. Il nous aime tellement, il n'y a plus de limites. Les péchés sont pardonnés. Parce que Satan va dire, mais il y a des péchés. Mais les péchés sont pardonnés à la croix. Jésus a versé son sang pour cela. Il n'y a plus d'obstacle pour la manifestation infinie de la gloire de Dieu. C'est notre choix. Nous devons arrêter avec un christianisme médiocre, menu. Non, il faut entrer dans l'héritage que Dieu a fixé pour nous. C'est un choix à faire. Il faut le décider, le rechercher et nous allons le vivre. Nous allons clôturer en disant ceci. Devant ce que nous venons de lire, première chose, comprendre l'amour de Dieu. Quel est ce Dieu-là? Alors qu'il est venu en homme, il va permettre qu'un autre homme fasse des choses plus grandes. C'est parce que il nous aime tellement que nous faisons un avec lui. C'est pourquoi il permet cela. Nous l'avons dit, même dans les familles où il y a un certain amour naturel, on voit des parents jaloux de leurs enfants. On voit des grands frères, des grandes sœurs jaloux de leurs petits. Alors qu'ils ont un amour fort naturel. Mais pourquoi Dieu n'est pas jaloux? Parce que son amour dépasse l'amour naturel. C'est un amour infini. Nous voulons qu'aujourd'hui, nous saisissions cela. Dieu nous aime d'un amour infini, d'un amour extraordinaire. Vous savez, le christianisme est la seule croyance où l'homme a une grande valeur. Dans aucune croyance, dans aucun dogme, dans aucune habitude, l'homme n'a de grande valeur. Pour l'État, nous sommes des numéros statistiques. Nous sommes des individus qui remplissons un ensemble démographique. J'ai un ami qui travaille en santé publique. Il m'a dit, en santé publique, c'est le pourcentage qui compte. Donc on ne connaît personne. En santé publique, on se dit, il y a eu combien de morts, combien de guérisons. Ce qui nous intéresse, c'est le pourcentage. On veut que le pourcentage soit très bon. Ah tiens, ce vaccin-là a permis qu'il y ait 90% de sauvés. Mais on ne s'intéresse pas aux 10% qui a péri. La santé publique, ce n'est pas son problème. Nous sommes des numéros. Mais Dieu, il est dit de lui qu'il compte le nombre de nos cheveux. L'amour de Dieu pour nous est très grand. Ce texte où il dit « Ceux qui croiront en lui feront les mêmes choses que lui » montre une fois de plus cet amour. Nous avons déjà prêché sur l'amour de Dieu en donnant d'autres raisons, d'autres éléments. Mais aujourd'hui, nous avons un deuxième élément. C'est le fait qu'il peut permettre que nous fassions les mêmes choses que lui et même des plus grandes. C'est tout simplement le témoignage d'un amour immense, infini pour nous. Ça montre la valeur qu'il nous accorde. Il nous accorde une grande valeur. Alors, qu'est-ce que tu choisis? De suivre celui qui t'accorde une grande valeur ou celui qui veut juste t'utiliser? Choisir le corps. Le corps est méchant. Le corps va faire de toi un grand sportif. Mais il viendra un jour où tu voudras agir. Vous connaissez Mohamed Ali. Le corps avait fait de lui l'homme le plus fort, le plus beau. Mais il est venu un jour où ce corps-là l'a trahi. Voilà, nous avons suivi les matchs de boxe de Mohamed Ali. Et tu vas pleurer quand il a perdu son combat contre Larry Holmes. C'est l'autre, l'adversaire, qui demandait à l'arbitre d'arrêter le combat parce que Ali, c'était son maître. Il voulait pas le ridiculiser. Il suppliait l'arbitre d'arrêter le combat. Ali ne pouvait pas réagir. Son Parkinson avait déjà commencé. Vous voyez, le corps l'a trahi. Que ce soit les idéologies, les mouvements, les autres éléments, tous sont des traîtres. Le corps peut te rendre fort, te rendre célèbre, mais il te trahira un jour. Vous savez, j'ai suivi le témoignage d'un monsieur qui était musulman. Il dit, quand je lisais dans le Coran, eh bien, Mohamed, il a gagné une guerre et il a tué tous les gens là-bas. Je disais, gloire à Dieu. Je lisais que Mohamed, il a gagné une guerre. Il a pris les esclaves femmes, il a pris les femmes des autres de vaincus. Il en a fait des esclaves et il les a connues physiquement toutes. Je disais, gloire à Dieu. Mais quand j'ai vu ça physiquement, en Syrie, c'était un Syrien, il a dit, les gens, les islamistes, quand ils ont pris la ville, vous savez, certaines villes à l'époque avec Bachar el-Assad, dans 2011-2012, il a dit, ils se sont disputés une femme de 60 ans. Et la femme disait, mais mes fils, je suis votre mère. Il y a un qui disait, des islamistes avec la barbe, hein, un qui disait, c'est moi qui ai vu la première. Donc ils se sont permis de violer cette femme de 60 ans. Il a dit, j'ai vu ça. Et la femme dit, mais mes enfants, je suis votre mère. Il a dit, j'ai vu un homme, on lui a coupé la tête devant son fils. Et on a pris la tête, on a accroché à un poteau sur la place publique. Il a dit, c'est une chose de lire ça, Vivre, ça, c'est autre chose. Il a dit, ce jour-là, je suis devenu athée. Plus tard, il a rencontré le Seigneur. Mais c'est pour vous dire la place de l'être humain dans cette religion-là. L'être humain n'est rien du tout dans cette religion-là. Il suffit. Alors que pendant 25 ans, toi et ton frère, vous étiez en fusion d'amour. Mais il suffit que tu quittes la religion. Il suffit que tu épouses peut-être, ou bien que tu fasses un péché du genre être tombé enceinte. Ce même frère-là va se charger de te tuer. Au fait, tu n'as aucune valeur dans cette religion-là. L'homme, l'être humain n'a pas de valeur. Ce qui a de valeur, c'est leur dogme, leur fierté. Ce n'est pas l'être humain. Le seul endroit où on donne la valeur à l'homme, c'est en Jésus. Au point de donner sa vie pour chaque humain. Et aujourd'hui, nous voyons qu'il partage sa gloire. Il dit, ben, vous pouvez faire les grandes choses en mon nom. Il n'y a pas de problème. Je vous aime tellement que c'est comme si c'est moi qui le faisais. C'est extraordinaire. Qu'est-ce que nous choisissons? Vous savez, dans une entreprise, tu peux être le chouchou de ton patron, mais le jour où tu deviendras improductif, ça va changer. Tu es le chouchou aujourd'hui, mais le jour où tu es improductif, ça change. Ils vont te remplacer sans problème. Que ce soit en politique, partout, dans tous les domaines, le jour où tu n'es plus efficace. On le dit même en amitié, les gens disent, mais quand j'avais beaucoup d'argent, tout le monde était mon ami. Mais depuis que je n'ai plus les gens m'ont quitté, je ne reçois plus les coups de fil. Dans aucun système, tu trouveras la valeur que Dieu accorde à chaque humain à travers Jésus-Christ. Une valeur d'amour extraordinaire. C'est ça notre prédication. Qu'est-ce que tu choisis? La religion chrétienne, où on passe son temps à fuir le mal, ou bien la vraie foi qui consiste à saisir l'amour de Dieu et à y entrer. Ce que le monsieur à la croix avait saisi. Jésus, quand tu viendras, souviens-toi de moi. Il a senti l'amour de Jésus. Il a voulu rester avec lui. Choisissons Jésus-Christ. C'est le seul qui nous aime d'une manière inconditionnelle. C'est le seul qui est prêt à nous laisser faire des choses plus que lui n'en a fait quand il était sur terre. C'est le seul qui nous aime à ce niveau-là. C'est le seul. Le corps nous donnera satisfaction un temps. La science nous donnera satisfaction à un temps. Vous savez qu'aujourd'hui, il y a le prix Nobel français de 2022 qui dit, bon, c'est vrai que Einstein a, je peux le dire, Einstein a eu tort dans certaines théories, mais je ne veux pas le dire publiquement comme ça. Voyez, donc, qui que tu sois, un jour tu seras humilié par tes pères, par les gens qui t'encensaient, mais Jésus, lui, te donne une grande valeur. Qu'est-ce que tu choisis? Et c'est une valeur éternelle. Deuxièmement, nous lisons Hébreux 12, 1 à 2. Hébreux 12, 1 à 2.
Nous donc aussi.
Puisque nous sommes environnés d'une si grande nuée de témoins, rejetons tout fardeau et le péché qui nous enveloppe si facilement, et courons avec persévérance dans la carrière qui nous est ouverte, ayant les regards sur Jésus qui suscite la foi et la mène à la perfection, en échange de la joie qui lui était réservée. Il a souffert la croix, méprisé l'ignominie et s'est assis à la droite du trône de Dieu.
Amen, amen. Il nous est dit ceci. Nous avons beaucoup de prédécesseurs qui ont vécu ce que Dieu a promis. Alors pourquoi pas les imiter devant cette nuée de témoins, tous ces prédécesseurs qui ont cru en tout ce qu'on vient de lire et qui l'ont expérimenté. Nous avons parlé de Pierre et de Paul. Et d'autres encore à notre époque, au XXe siècle, il y a d'autres qui ont vécu ces choses-là. Je vous ai raconté que ce qui s'est passé en Indonésie. Un jour, il devait aller évangéliser dans un village lors du réveil d'Indonésie. Il traversait une rivière tumultueuse. Et à un moment donné, des crocodiles ont commencé à avancer vers eux. Ils ont donné l'ordre aux crocodiles de faire demi-tour au nom de Jésus. Ils ont obéi. Ils ont traversé la rivière. Et des enfants de ces chrétiens-là, un jour, ils allaient d'un village à un autre. Et en chemin, comme c'est des enfants, ils ont voulu faire un peu de sport. Je ne sais pas à quel jeu ils jouaient, ou bien c'était nager dans un lac, quelque chose comme ça. Ben, quand ils ont enlevé les vêtements, ils ne savaient pas où accrocher. Il y a un qui avait fait tomber son vêtement. Alors, je ne sais pas quel geste il avait fait. Le vêtement est resté accroché au ciel, dans le vide. C'est un ange qui a porté son vêtement. Les autres ayant vu ça, ils ont aussi balancé leurs vêtements en l'air. Les anges ont gardé. Jusqu'à ce qu'ils finissent leur moment de natation. Et les anges ont remis leurs vêtements. C'était des enfants. Donc Dieu peut faire les grandes choses. Nous avons une carrière, il est dit, nous avons une carrière qui nous est ouverte, une carrière glorieuse. Alors, marchons-y avec persévérance. Mais tu me diras, hier j'ai essayé de prier, ça ne s'est pas fait. Continue, puisque c'est une promesse certaine. Continue à chercher la face de Dieu. Continue à prier jusqu'à vivre ce que lui l'a demandé. Et il dit, les yeux fixés sur Jésus, c'est-à-dire Jésus va te guider sur le chemin de cette gloire. Il va te guider. Attache-toi à lui, discute avec lui, réclame ce qu'il a promis et il te guidera jusqu'à ce que tu vives cela. Ici-bas, bonheur suprême. Seigneur, nous commençons par te dire merci. Merci pour ton amour qui fait que tu nous amènes à être cohéritiers avec Jésus-Christ des richesses infinies. Quel amour pour des gens pécheurs comme nous. Seigneur, nous ne voulons plus être distraits par le péché. Nous voulons nous attacher à ton amour, rejeter toute forme de convoitise pour nous plonger dans ton amour qui est si grand pour nous. Où irions-nous, Seigneur? Où irions-nous? Partout, on cherche à nous utiliser. Partout, on cherche à profiter de nous. Le monde veut nous épuiser. Le monde veut nous éloigner de la vérité. Mais toi, Seigneur, tu nous aimes. Tu es le seul qui nous donne autant de valeur. Nous préférons rester avec toi. Même nos familles ne nous donnent pas la valeur que toi tu nous donnes. Seigneur, alléluia. C'est pourquoi nous redisons la même chose que ce troisième couplet, que même si Satan sème le doute, même s'il y a des orages dans nos vies, nous croyons en ton amour. Nous nous fions en ton amour. Nous savons que tout concourt pour le bien de ceux qui t'aiment. Ta parole est la vérité et nous verrons tout cela comme le chant le dit. Au ciel, nous verrons la gloire. Nous croyons que chaque difficulté vécue sur terre est une frange d'or à notre vêtement céleste, Seigneur. Alléluia. Mais aujourd'hui, bien-aimés, nous allons prier. Chacun va demander à Dieu les choses les plus extraordinaires. Non pas pour glorifier l'être humain, mais parce que ce sont des promesses de Dieu. Tu peux demander le salut de quelqu'un que tout le monde considère comme très méchant. Tu peux demander la guérison de quelqu'un. Tu peux demander le réveil dans une ville. Tu peux demander le réveil spirituel dans ta famille. Ce que tu pensais comme être quelque chose d'impossible, eh bien maintenant, nous allons nous appliquer à demander ce genre de choses parce que Dieu est infini dans sa puissance et dans sa gloire. Seigneur, nous venons prier que notre foi soit transportée à une dimension de déplacer les montagnes, Seigneur. Aujourd'hui, nous venons, nous nous permettons de te demander les choses les plus impossibles selon le cerveau humain. Nous venons prier, Seigneur, que la France soit inondée de la puissance du Saint-Esprit pour briser le règne de la déesse raison, briser le règne du cartésianisme, briser le règne de l'incrédulité, que l'Esprit Saint soit vainqueur du Dieu, sécurité sociale, du Dieu et gouvernement. Seigneur, que ce soit toi, le véritable Dieu, qui se manifeste puissamment en France, à tous les niveaux. Ô Éternel, merci Seigneur de glorifier ton nom dans ce pays qui paraît sec. Mais Seigneur, il est écrit, des fleuves d'eau vive sortiront du désert. Dans la sécheresse de la France, nous prions que des fleuves sortent, d'eau vive sortent. Nous venons prier pour chacune de nos familles, Seigneur, que le réveil se manifeste dans chacune de nos familles, que les enfants commencent à prophétiser selon Joël 2:28, que les enfants commence à nous réveiller pour la prière. Manifeste-toi et que les personnes âgées nous présentent les songes qu'ils ont vus consistant à tes plans merveilleux, Seigneur, pour la suite. Merci de te manifester au nom de Jésus. Seigneur, je viens prier particulièrement en ce qui concerne les maladies. Je dis à chaque maladie qui est en ce lieu, tu sors dans le nom de Jésus-Christ. Jésus a triompher de toute maladie à la croix. Seigneur, merci de toucher toute personne qui est venue avec une insuffisance, une distorsion physique. Que cela s'en aille au nom de Jésus-Christ. Je proclame le redressement des viscères, le redressement des organes internes. Je proclame le redressement des organes externes au nom de Jésus-Christ. Au nom de Jésus, Satan, tu n'as pas le choix, tu quittes les vies. Merci Seigneur pour ta puissance qui libère complètement. Tout esprit de mort est vaincu au nom de Jésus-Christ. Tout esprit de dépression est vaincu au nom de Jésus. Merci Seigneur de te manifester. Toi le Dieu vivant, à toi la gloire. Seigneur, que chacun quittant cette salle soit libéré, comme nous venons de lire, tous ils étaient guéris. En quittant cette salle, que cela parte définitivement dans le nom de Jésus-Christ. Merci pour ta fidélité. Merci pour ta gloire, Seigneur. Béni soit ton nom. En toi j'ai mis ma confiance.